qui arrive à Alain Juppé, c'est vraiment horrible. Vraiment, on le plaint de tout cœur. C'est vrai qu'il ne méritait pas ça. C'est très injuste. Alors, je propose par la voix de là-bas, si j'y suis, et je vous remercie de me permettre ce genre d'action hautement humaniste. Donc, je propose que tous les Français, et notamment les chômeurs en fin de droit, tous ceux qui ont inauguré leur entrée au Resto du Cœur cette année, par exemple, les chercheurs, ou tous les profs qui, eux, n'ont pas 160 000 francs de retraite par mois, ou les nouveaux licenciés, ou les employés de chez Pizza Hut, ou toutes les caissières exploitées, ou les intermittents, ou ceux qui paieront leurs études très chères plus tard, enfin bref, j'en passe, tous ceux qui peuvent vraiment dire aujourd'hui merci l'UMP. Donc je propose que tous ces Français-là donnent un petit quelque chose pour Alain, pour ce saint homme, du moins d'après les journaux télé d'hier soir, pour qu'Alain retrouve goût à la vie et se change les idées. Donner pour Alain, donner pour qu'il puisse, par exemple, je ne sais pas moi, se payer quelques implants, ou aller jouer au golf, ou se payer les SAS qu'il n'aurait pas encore. Alors, au nom d'Alain, merci, car Alain, c'est vraiment quelqu'un de bien.
Ici Viviane de Beaumont, du Périgord, je vous téléphone parce que nous ne voulons pas de Sarkozy. C'est tout, on ne veut pas de Sarkozy. Je suis pas du tout le péniste, mais j'ai envie de dire, Juppé, il est de chez nous. Moi, je suis landaise et bordelaise en même temps, je vis en Périgord, mais c'est pas pour ça, ça pourrait être un type du nord, du centre, n'importe où, mais même d'ailleurs. Mais ce Sarkozy, mais c'est le diable, et sa femme, c'est l'horreur. C'est elle qui mène la danse. Je dis que c'est la caligaille, réincarnation. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, ben ça fait du bien de parler.
C'est une amie de Bordeaux qui vous appelle pour vous dire qu'ici, la communauté urbaine n'est pas complètement sous le choc, ou alors sous un choc très positif. Écoutez-nous, samedi matin avec les collègues, c'était quand même un peu la fête. Donc c'est peut-être très mal, c'est pas très chrétien de se moquer comme ça du malheur des gens, mais enfin, en tout cas, on voulait quand même être solidaire et dire Alain, t'es pas tout seul. Surtout, t'es pas tout seul, rassure-toi. Enfin, comme crevure, t'es pas tout seul. Voilà, allez, on sait pas ce que ça donnera, autant profiter tout de suite de notre joie. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, au revoir.
J'ai trouvé la solution pour les pauvres, en fait. Il y a qu'à stériliser tous les pauvres, il y aura plus de pauvres. Et puis obliger les riches à faire des petits, comme ça il y aura beaucoup de riches. Et puis, plus de pauvres, puisqu'ils seront tous stérilisés. Voilà, il me semble que c'est une bonne solution. C'est en écoutant l'abbé Pierre, là, ce matin, que j'ai... Je crois que j'aurais dû faire de la politique, en fait, plutôt que d'être artisan. Allez, bonne journée, bon courage à tous. Salut.
Voilà. Voilà ce qu'on trouve sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et oui, c'est édifiant. C'est bien vrai, mais c'est vous, enfin, qui les avez laissés. Et puis, c'est nous qui les avons choisis, il faut bien dire les choses. C'est quelques messages. Aujourd'hui, premier lundi du mois, rendez-vous avec l'éminente équipe du Monde diplomatique, le mensuel Le Monde diplomatique. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis. Je répète le numéro 01 56 40 37 37.
Donc j'écoute l'émission aujourd'hui des téléopérateurs là. Et ben c'est vrai que c'était très drôle l'histoire de Monsieur la Crampe là. J'ai vraiment cru que c'était un extrait de film que vous aviez intercalé entre deux, des chiens ou quelque chose comme ça. Je croyais que c'était François Morel, moi, qui faisait le con. Je savais pas que c'était un vrai téléopérateur, ce gars. Enfin bref, donc c'est très drôle, enfin pauvre Monsieur Lacrampe qu'on fait chier pour lui donner une autre connexion internet qu'il a déjà. Et bravo à ce téléopérateur qui doit très bien travailler et qui doit être notifié premier chaque semaine. Voilà, bon ben en tout cas c'est bravo aussi à tous ceux qui se révoltent dans ces entreprises de merde. Et puis bravo encore à ceux qui envoient des messages assez rigolos parce que finalement ben, on se marre quand même bien. Comme ceux qui critiquaient l'émission d'hier, je sais plus, il y a eu deux personnes très drôles, voilà. Bon, au revoir, à la prochaine.
Dès que Wanadoo annoncera la baisse de son tarif à DSL 512 cabines, bien sûr, monsieur, vous serez bénéficiaire automatiquement sur votre facture de la répercussion de cette baisse sur votre facture dès le mois suivant, monsieur Lacrampe. Donc nous pouvons y aller, monsieur Lacrampe. Je vais procéder avec vous à la vérification de vos coordonnées pour que vous puissiez bénéficier dans les meilleurs délais de cette prestation. Wanadoo, monsieur Lacrampe. Je vais vérifier avec vous l'ensemble de vos coordonnées, monsieur.
Demande à Sonia, alors.
Je vous écoute, monsieur. Ah, je peux savoir ce qui vous retient plus précisément, monsieur Lacrampe. Ah, bah, je le comprends parfaitement, monsieur Lacrampe. Enfin, vous savez très bien qu'à son travail, on travaille. Et à la maison, vous avez plus de temps pour consulter la DSL. Très bien. Donc, vous serez quand même plus à l'aise pour effectuer toutes ces recherches et l'envoi des documents, monsieur Lacrampe. Autant ne pas vous priver de ce confort. Ah, mais ça, je n'en doute aucunement, monsieur Lacrampe. Vous savez très bien que nous sommes toujours là pour vous présenter nos meilleurs services au meilleur prix, monsieur Lacrampe.
Oui, salut Daniel. Bien vu pour tes émissions. Bon, moi, je suis chef d'entreprise et donc je suis très à l'aise pour parler. J'ai beaucoup apprécié le sujet là sur le travail, les travailleurs pauvres et principalement le télévendeur avec Monsieur Lacrampe, c'est absolument extraordinaire. Il y a deux choses simplement que sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention de journaliste. La première, c'est que je trouve qu'il est un petit peu facile aujourd'hui de montrer du doigt des situations comme celle de France Télécom, qui sont en fait la conséquence d'une situation antérieure et de la gabegie qui a régné dans cette entreprise et dont tous les membres sont responsables, y compris Michel Bombe, bien sûr. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et ça, vous en parlez pas assez, je veux dire, de ce côté réaction. Vous positionnez les choses comme si elles devaient être, alors qu'en fait, elles ne sont que la conséquence du vaste bordel qui a animé la France pendant, on va dire, 25 ou 30 ans. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, plus vers le futur, je trouve que lors d'un sujet comme celui-ci, sur le travail, les pauvres travailleurs, on va dire, vous n'avez pas assez mis l'accent sur les conséquences sociales qu'il peut y avoir à ces situations. C'est-à-dire que les gens qui travaillent comme cela, comme ce monsieur qui vendait à monsieur Lacrampe, quand il sort du boulot, c'est un fou furieux, c'est un dangereux, c'est un tueur. Je veux dire, là où nous allons payer le plus cher ce genre d'excès, car ce sont des excès, c'est dans la rue. Parce qu'on fabrique des requins, on fabrique des fous furieux, sous la houlette d'enfoirés mondains que sont les cadres nouvelle génération. Et c'est le chef d'entreprise qui parle, hein. Ça n'apparaît pas après dans ton sujet, mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus de pertinence au-delà que le factuel, qui pourtant est très bien traité.
Oui, bonjour, monsieur Hermé Daniel du 04 à Manosque. Écoutez, je suis un peu décontenancé d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui. Qu'il puisse y avoir des patrons avec ces agissements-là. Je suis moi-même patron et j'ai parfois honte d'être patron. Cela dit, il y en a peut-être assez aussi d'entendre toujours les mêmes rengaines. Il faudrait peut-être essayer de déplacer un petit peu le problème et venir voir ce qui se passe dans les petites entreprises. Parce que moi, j'ai une dizaine ou dizaine d'employés, plus une autre, dans une autre société encore sept. Et croyez bien que je suis extrêmement proche de mes employés. On n'a pas besoin de syndicat pour pouvoir dialoguer. Tout le monde peut rentrer dans mon bureau quand il veut et demander ce qu'il a à demander. Ça ne veut pas dire que je dis oui à tous les coups, mais le dialogue est installé et il y a une proximité. Donc je comprends plus. Je suis désorienté d'entendre tout ça. J'ai parfois honte d'être patron. Je viens d'un milieu ouvrier. C'est vraiment le bordel. Je comprends plus. Vous avez malgré tout, je crois que vous avez une très grande responsabilité dans tout le dialogue qui est aujourd'hui installé où des gens comme nous n'ont plus la place, on ne se retrouve plus. Le drame là-dedans, c'est qu'il y a un effet de propagande où les gens, les petits ouvriers qui sont chez moi en l'occurrence et qui sont dans beaucoup d'entreprises au niveau national, comprennent plus non plus le message.
Tomber amoureuse est ma seule distraction. Tout le reste est trop sérieux. L'amour est la chose importante, le bien suprême, le plus simple et le plus précieux.
Avec Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Serge Halimi, Martine Bullard, Maurice Lemoine et Monsieur Lacrampe, peut-être le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Parmalat, Ignacio Ramonet, Parmalat. Qu'est-ce que ça vous dit, Parmalat?
Ça me dit scandale tout de suite. C'est une entreprise qui, au cours des 20 dernières années, est devenue l'une des premières entreprises italiennes, numéro 7 en raison de son chiffre d'affaires, et donc la première du monde pour ce qui concerne le lait haut de conservation. Que par ailleurs, c'est une entreprise qui a beaucoup fait de la communication. Hein, en Italie, une des grandes équipes de football d'Italie, le Parme, hein, est financée bien sûr par Parmalat, mais beaucoup d'autres équipes. Le Real Madrid, par exemple, à un moment, portait le nom de Parmalat sur son maillot. Donc c'est une entreprise qui a montré comme ça une offensivité extraordinaire. Elle s'était développée, était présente dans 30 pays, dont le chiffre d'affaires se rapproche de 8 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme considérable. On donne dans l'article, à titre de comparaison, son chiffre d'affaires est exactement de 7,6 milliards d'euros, ce qui est plus que le PNB de pays comme l'Angola ou le Sénégal, par exemple, hein, qui n'ont pas un PNB semblable. Donc ça donne l'idée de ce que c'est cette entreprise qui avait quelque chose comme 37 000 salariés à travers le monde. Son patron, Callisto Tanzi, était l'un des principaux patrons d'Italie, membre du comité de direction de la Confindustria, qui est l'équivalent du MEDEF ici, et présenté un petit peu par l'ensemble des acteurs économiques comme un modèle de réussite. Quand je dis que cette affaire a éclaté dans une très grande surprise, faut savoir que quelques jours avant justement la découverte de ce scandale, une banque aussi sérieuse que la Deutsche Bank, donc la grande banque allemande, a acheté 5,1% des actions de cette firme à un coût très élevé, que les analystes économiques recommandaient très fortement à la veille même du scandale, c'est-à-dire le scandale qui a éclaté le 19 décembre, d'acheter cette valeur parce que c'était une valeur très sûre. Or, il y avait eu un certain nombre d'indices. Par exemple, la commission d'opérations en bourse italienne avait demandé à l'entreprise, donc vers la mi-janvier, de quelle manière elle comptait régler un certain nombre de dettes qui arrivaient à échéance à la fin de l'année. Et il y avait eu une sorte de trouble de la part de l'entreprise, et qui avait vu déjà sa cote légèrement diminuée par les entreprises de notation, n'est-ce pas, la Standard & Poor's en particulier. Et à cette occasion, pour ne pas laisser la rumeur se répandre qu'il serait en difficulté de paiement, ils ont montré, donc dans une conférence de presse, ils ont exhibé un document signé de la Banque d'Amérique, en particulier dans une agence de la Banque d'Amérique des îles Caïmans, qui sont un paradis fiscal, précisant que il disposait comme ça de liquidités de 3,5 milliards de dollars en liquidités, et que par conséquent, donc il n'y avait aucune difficulté à régler cette affaire. Mais évidemment, cette information a circulé. La banque Bank of America a voulu savoir à peu près de quoi il s'agissait, et puis ils ont immédiatement lancé une information disant que le document qu'ils avaient exhibé vis-à-vis de la presse et vis-à-vis des différents acteurs qui étaient inquiets était un faux. Et quand on a regardé ce faux, c'est un faux absolument grossier. Je veux dire, il a été fait dans la photocopieuse d'un bureau. L'entête a été scannée de manière numérique, mais tout à fait primaire, et les chiffres étaient totalement fantaisistes. C'est-à-dire que on a découvert qu'une grande maison aussi sérieuse utilisait des faux. Du coup, évidemment, la bourse s'est effondrée, parce qu'ils étaient effectivement en cessation de paiement. La valeur en bourse s'est effondrée. Et puis, dès qu'on a commencé à fouiller, on a immédiatement découvert que tout était faux. La comptabilité, depuis des années, était fausse. C'est-à-dire qu'on a inventé des documents quand il fallait que les chiffres soient cadres, en quelque sorte.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des complicités de la part, par exemple, de la Deutsche Bank ou des agences de notation?
Alors, pour l'instant...
C'était le cas chez Enron.
Pour l'instant, l'enquête ne fait que démarrer. Très vite, d'ailleurs, le président a démissionné. Il a été remplacé par une sorte de commissaire qui va essayer de voir comment il peut sauver l'entreprise. Et le gouvernement italien, bien sûr, s'y est intéressé. La presse commence à s'intéresser de plus en plus, mais en devinant que il y a des choses qu'on va découvrir assez énorme, parce qu'on ne peut pas avoir caché pendant des années des trous. Il semble, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, mais ça peut grandir, parce qu'au moment où j'ai écrit l'article, donc il y a quelques jours, le trou de Parmalat était estimé à 11 milliards. Aujourd'hui, il est estimé à 18 milliards. 18 milliards d'euros, nous parlons d'euros. 18 milliards d'euros. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et donc on se demande que c'est pas possible que, par exemple, la Deutsche Bank ne soit pas complice, ait pu ignorer cette affaire. Est-ce qu'elle n'a pas fait cet achat dont nous parlions tout à l'heure uniquement pour également donner confiance aux investisseurs? On pense également que certaines banques suisses étaient impliquées. Il y a toute une série de dirigeants politiques qui étaient impliqués, d'ailleurs disons des gouvernements antérieurs à ceux de Berlusconi, je le dis tout de suite, parce que on peut penser dans l'Italie de Berlusconi que c'est ce gouvernement et les personnes qui ont tué Berlusconi ont pu être à un moment ou à un autre impliqués. C'est plutôt pour l'instant les dirigeants politiques de l'équipe antérieure. Donc c'est pourquoi d'ailleurs la presse est hésitante. Mais c'est surtout un système, c'est-à-dire un système qui a multiplié les banques écrans, un système qui a utilisé les paradis fiscaux pour faire de l'investissement, un système qui a misé davantage, disons, sur la spéculation financière que sur la production industrielle. D'ailleurs, les premiers résultats de la première analyse que l'on fait, eh bien, c'est de dire que l'entreprise, en tant que, disons, appareil industriel, est rentable, est tout à fait rentable, même maintenant, dans cette affaire extraordinaire. Mais que c'est toute la cavalerie, toutes ces opérations de spéculation sur la monnaie qui a conduit à cette débâcle extraordinaire, dont on imagine, par ailleurs, que finalement, elle va avoir des conséquences très importantes sur beaucoup d'entreprises européennes, sur beaucoup d'acteurs financiers européens, en particulier, évidemment, des banques. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que depuis quelque temps, on nous disait, voilà, il y avait eu Enron, hein, il y a 2 ans, vous aviez d'ailleurs enquêté très sérieusement sur les conséquences de cette débâcle d'Enron, en particulier au Texas. Et on se disait, finalement, ça avait été bénéfique. Grâce à Enron, maintenant, il y a des systèmes de surveillance. On s'est doté de toute une série de verrous qui permettent d'empêcher une débâcle semblable. Eh bien, on voit, finalement, avec l'affaire Parmalat, mais avec d'autres, d'ailleurs. Il y a eu l'affaire Ahold, par exemple, aux Pays-Bas. Il y a eu l'affaire Tyco, il y a eu l'affaire WorldCom. Il y a eu toute une série d'affaires après Enron. Et on voit bien que finalement, c'est une certaine conception du fonctionnement aujourd'hui de l'économie où cette espèce de tressage entre l'économie industrielle et l'économie financière fait que des entreprises sont fascinées par les opérations financières, à usent et abusent des facilités que proposent les paradis fiscaux. On voit d'ailleurs, entre parenthèses, la nocivité des paradis fiscaux, et on ne se lasse pas de le dénoncer sans qu'il y ait finalement une enquête qui avance. On voit bien finalement que Parmalat est un scandale important, certes, mais qui montre bien que les choses n'ont pas changé dans cet univers assez délétère qu'entretient une conception de la mondialisation économique.
Mondo difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto.
Avec le monde diplomatique du numéro le mois de février, toute l'équipe.
Non puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón.
Alors, George W. Bush, en France, ne jouit pas d'une très très grande popularité, il faut bien dire les choses. Mais c'est pas le cas dans son pays.
Serge Alimi.
Oui, il y a presque un effet de mode en France qui consiste à publier un article plus hostile à George Bush que le précédent et à faire des couvertures de magazines là-dessus. Et naturellement, il y a toutes les raisons du monde à s'opposer à George Bush, mais il y en a aussi quelques-unes qui devraient inciter à essayer de comprendre pourquoi il bénéficie d'une certaine popularité aux États-Unis. Et l'article...
Donc vous allez nous faire une réhabilitation de George Bush,
non, pas du tout, parce que l'article de Tom Frank, qui est certainement pas partisan de George Bush, essaie de comprendre à la fois sa popularité et... le succès de la révolution conservatrice aux États-Unis depuis 25 ans. Alors, il souligne plusieurs points. Le premier, c'est que les républicains, dans le cadre d'une thématique qu'on qualifie souvent de populiste, ont été, à mon avis à tort, ont été capables de redéfinir ce qu'était le populisme. Avant, le populisme, c'était, ça a toujours été les petits contre les gros. Mais avant, les gros, c'était les grosses entreprises. Et les petits, c'était le peuple, les paysans, les ouvriers qui se dressaient contre les grosses entreprises. Et à partir des années 60, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues d'évoquer en détail, il y a eu une redéfinition de ce qu'était le populisme qui a favorisé les républicains, dans la mesure où ils ont défini le gros comme l'État. Les gros, les puissants, c'était l'État, les intellectuels, qui impose au peuple des contraintes sans nombre, et eux, évidemment, se plaçaient du côté de ce peuple, défini de manière très large, qui ne voulait ni impôts, ni réglementation, ni égalité raciale et sexuelle, puisque, naturellement, le peuple républicain, c'est surtout un peuple masculin et un peuple blanc. Je précise qu'aux États-Unis, depuis 1968, les Blancs ont systématiquement voté pour le candidat républicain à l'élection présidentielle, y compris quand le démocrate a été élu, quand c'était Carter et Clinton, alors que Clinton a été assez largement réélu la deuxième fois. Donc il y a une forte majorité d'électorats blancs côté républicain. Première donc explication de la victoire de la droite, cette redéfinition des petits et des gros. Deuxième explication sur laquelle insiste beaucoup Tom Frank dans le livre qu'il vient de publier, le populisme de marché, ce qu'il appelle précisément le populisme de marché. C'est-à-dire cette analyse selon laquelle le peuple, le marché est l'essence de la démocratie, et le peuple, quand il consomme, vote. Et dès lors qu'il vote en consommant, quand une entreprise est puissante, ça veut dire que le peuple a voté pour elle. Si General Motors est plus puissante que ses concurrents, c'est que General Motors est plus populaire que ses concurrents. Et dans ces conditions, il n'y a rien à dire, et ce serait en quelque sorte contrecarrer la volonté populaire qu'imposer des contraintes à ces grosses entreprises qui ont été élues par le peuple. Bon, c'est la fameuse phrase d'un ministre d'Eisenhower, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis, qui a été reprise. Mais il est vrai que dans les années 90, à la fin des années 90, quand il y a eu cette énorme bulle boursière, il y a eu cette agitation qui consistait à dire que le peuple votait en achetant des actions en permanence et que donc contrôler les entreprises industrielles et financières, ça allait être imposer des contraintes au peuple qui avait exprimé son verdict. Alors la troisième dimension sur laquelle insiste Tom Frank et qui à mon avis est centrale pour expliquer la victoire de la droite, pas seulement d'ailleurs aux États-Unis, c'est l'utilisation par la droite de la culture ordinaire, la culture de l'homme ordinaire. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle américaine, l'électorat de Bush, c'est surtout l'électorat de l'intérieur des terres. Et l'électorat de Clinton, c'est l'électorat des côtes, proche des côtes, plus internationaliste, plus bourgeois, plus éduqué, plus universitaire. Et George Bush a en permanence joué ce jeu-là, ce qui explique d'ailleurs qu'il revienne régulièrement dans son ranch de Crawford au Texas. Lui, c'est l'homme qui, en quelque sorte, travaille avec ses mains et qui n'est surtout pas un intellectuel. Il faut se rappeler que pendant sa campagne électorale, il avait même dit que la vertu à ses yeux, c'était l'humilité contre l'arrogance. Et il disait, même à propos de la politique étrangère américaine, c'était avant le 11 septembre, il faut que les États-Unis redeviennent une nation humble. Donc cette vertu de l'humilité... de l'américain moyen...
C'est une vieille ficelle en politique.
Oui, mais c'est une vieille ficelle, mais pourquoi marche-t-elle? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Elle marche parce qu'elle est incarnée par des gens qui ont réussi à se présenter comme des hommes ordinaires, qui ne sont pas entourés par des intellectuels, parce que même les néoconservateurs, ils parlent beaucoup de George Bush, mais George Bush passe pas sa vie avec eux. George Bush, on le voit donc comme étant l'homme ordinaire, dans son ranch, il boit de la bière ordinaire, non importée, parce qu'il y a une espèce d'aversion pour tout ce qui est étranger, européen, importé, distingué, sur laquelle la droite a réussi à jouer, et on l'a vu dans le cas de la guerre d'Irak. Nous ne sommes pas cosmopolites. Nous représentons l'Amérique profonde, l'Amérique des valeurs ordinaires. Et alors justement, on en vient à la quatrième dimension. Si tout ça marche, c'est que, en face, en quelque sorte, la gauche a joué sur le terrain de la droite en se plaçant sur le terrain du raffinement, du multiculturalisme, de l'ouverture, qui a conforté cette image d'une espèce d'élite à l'écart de la tradition culturelle américaine. Et très souvent, lorsque vous parlez de populisme à la gauche, et notamment aux démocrates, surtout quand ce sont des intellectuels, et parfois quand ce sont des intellectuels radicaux, il y a une espèce d'aversion à l'égard du populisme, parce que pour eux, le populisme, ce sont les milices d'extrême droite. Ce sont les ploucs, en quelque sorte. Et il y a ce mépris du peuple qui a favorisé la droite, aux États-Unis comme ailleurs, dans la mesure où trop souvent, la gauche a incarné, comme le dit Tom Frank, la sympathie pour les défavorisés, mais pas leur mouvement en vue de transformer la société. Donc une espèce de sympathie lointaine et un peu condescendante, mais qui ne change rien quant aux comportements culturels et sociaux, aux sociaux habituels. Et donc cette image d'une gauche qui invoque en quelque sorte les références internationales et qui se dresse contre les ploucs qui agitent des drapeaux étoilés, c'est exactement ce qu'attend la droite américaine. Parce que
on peut faire des analogies avec la situation française. Hein.
Mais on peut faire beaucoup d'analogies.
On peut faire certaines.
Et je crois que c'est d'ailleurs l'intérêt de ce papier. Les gens le liront en se disant « ça me rappelle beaucoup de choses ».
Quelque chose.
Ça évoque beaucoup de choses. Et alors, une des dimensions intéressantes, et je terminerai par là, c'est la manière dont Tom Frank fait la lecture culturelle de l'affrontement entre Colin Powell et Dominique de Villepin aux Nations Unies. Et il dit « en fait, vous, à l'étranger, vous avez eu l'impression que Dominique de Villepin l'emportait parce qu'il exposait des arguments rationnels et qu'il taillait en pièces les prétextes américains. Mais vu par beaucoup d'Américains, qu'est-ce que vous aviez ? Vous aviez face à un secrétaire d'État américain, tassé sur son siège et un peu penaud, un Français, grand, élancé, aristocrate.
Coq gaulois.
Voilà, aristocrate, polyglotte, bien habillé, raffiné, applaudi par les ambassadeurs du monde entier, qui en quelque sorte humiliait les États-Unis. Et ces gens, c'est cet Américain moyen qui est pas seulement à Crawford, mais qui peut être dans les villes et dans les campagnes des États-Unis, se sont dit « Ah, c'est encore l'étranger qui prétend nous donner des leçons alors que notre sécurité est en cause. » Et Tom Frank dit que tant qu'on n'aura pas compris les ressorts à la fois sociaux et culturels du conservatisme américain, et vous avez raison, l'argument ou l'explication peut s'appliquer à d'autres pays, on permettra à la droite de remporter des succès sans jamais en comprendre l'origine.
Je
On continue avec le diplôme de ce mois de février. Et là, c'est vraiment un sujet rare, un vrai scoop. Donc personne, à part vous, ne parle. Ça, ça fait plaisir. On se demande pourquoi on achète ce journal. Et bien, on trouve la raison. Le voile. Le diplôme s'est occupé du voile. On pensait à tous que c'était un leurre médiatique. Et bien, pas du tout. Dominique Vidal s'y colle.
Vous observerez que nous avons pris notre temps.
Ah oui.
Que c'est en février, et non pas en octobre ou novembre, que comme d'autres, nous nous serions précipités sur le voile. Non, ce qu'on a essayé de faire, c'est un dossier qui fait réfléchir.
Équilibré.
Qui reflète la pluralité des points de vue, aussi bien dans notre équipe que dans notre électorat, et plus généralement dans la société française, y compris à gauche, c'est vrai. Et qui amène chacun à, je dirais, essayer de construire sa propre vision des choses. Moi, je voudrais juste donner quatre éléments qui me paraissent importants. Qu'on soit pour ou contre l'interdiction du port d'insignes religieux dans les collèges et les lycées. Premier élément, sur les conséquences immédiates de cette loi. D'après le ministère de l'Intérieur, cette année, à la rentrée en septembre, il y a eu 1250 jeunes filles voilées en France, et dans les lycées et les collèges, bien sûr, 50 ont posé réellement un problème qui s'est soldé par des discussions assez vives, et 6 ont fini par être exclus. Alors on peut se poser une première question, combien y aura-t-il de jeunes filles dans ces différents cas à la rentrée 2004? Moi je dois dire que, connaissant ce qu'est la jeunesse par expérience, je veux dire, dans ce pays, le souci de défier les interdits pourrait bien nous réserver des surprises, c'est-à-dire amener beaucoup, beaucoup plus de jeunes filles à se voiler pour protester à leur manière contre la loi qui, sans doute, aura été votée. Deuxième question, toujours sur les conséquences immédiates. Que deviendront les jeunes filles exclues? C'est-à-dire, est-ce qu'elles enlèveront leur voile? Moi, je ne le crois pas. Elles vont garder leur voile et rejoindre des écoles confessionnelles privées, catholiques pour la plupart, musulmanes, et il va sans doute s'en créer aussi. Quant aux autres, et on les oublie complètement souvent dans le débat, elles risquent d'abandonner leurs études, parce que les parents n'auront pas les moyens de leur payer des écoles privées où elles pourront porter leur voile comme elles le souhaitent. Deuxième point qui me paraît mériter réflexion, c'est le fait que cette loi a été prétexte d'ores et déjà d'une régression assez formidable, et notamment dans les médias. On a assisté à une sorte de folie médiatique. Je ne veux pas ici entrer dans les détails et accuser tel ou tel, mais enfin, moi qui ai connu la fin de la guerre d'Algérie enfant, qui pour des raisons familiales et personnelles était sensibilisé à cette période, il y a des moments où j'ai l'impression d'entendre des discours que j'ai entendus il y a une quarantaine d'années. Même Jean-Pierre Raffarin, que je ne cite jamais, mais là je vais le faire, en a pris conscience. Il a déclaré à la Grande Mosquée de Paris, il y a quelques semaines, je cite, « Je m'inquiète d'une certaine... »
C'est pas le CRIF, la Grande Mosquée de Paris.
Non, c'est les musulmans. Hein. Monsieur Boubacar, président du Conseil. « Je m'inquiète, disait Raffarin, d'une certaine islamophobie qui se développe incidemment dans notre pays. » Alors, on peut discuter le terme islamophobie. C'est vrai. Parce qu'après tout, on a le droit de critiquer les religions, comme on l'entend. Et ça n'est pas faire preuve d'islamophobie que d'être critique de tel ou tel aspect de l'islam, tel ou tel précepte de l'islam. Mais quand la campagne prend les dimensions qu'elle a prises, qu'elle ne vise que l'islam, qu'elle stigmatise l'islam est terroriste, l'islam est antisémite, l'islam est de l'oppression de la femme, on ne doit pas oublier à ce moment-là qu'il y a bien quelque chose qui s'articule à l'échelle internationale, comme si l'islam avait succédé à l'URSS, à l'Union soviétique, comme ennemi de l'Occident, et comme s'il y avait des ennemis publics numéro un, Ben Laden pour les États-Unis et Tariq Ramadan ici. Je m'excuse auprès de l'un et de l'autre, ils n'ont évidemment rien à faire en commun dans cette comparaison. Je crois qu'il faut réfléchir à cette dimension-là d'une bataille anti-musulmane, anti-arabe, qui au fond devient à force un nouveau cache-sexe du racisme anti-arabe tel qu'on l'a bien connu en France et notamment tel qu'il s'est enraciné au moment de la guerre d'Algérie. Troisième remarque, sur cette stigmatisation de l'islam, on ne peut pas oublier qu'elle vise des populations qui sont elles-mêmes déjà victimes de toute une série de discriminations. Ces centaines de milliers de jeunes des couches populaires, y compris immigrés, y compris fils d'immigrés, y compris pour certains arabes ou musulmans, ils ont du mal à accéder à l'emploi, à un salaire décent, à un logement décent. Ils ont du mal à trouver leur place dans la société. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière, même quand ils sont des citoyens français. On a là une espèce de stigmatisation d'un islam présenté comme responsable de tous les problèmes de la France, auquel cas, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dit à ces jeunes, c'est vous qui êtes responsable de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et là, il y a un véritable dérapage qui mérite d'être souligné. Si l'intégration, comme on dit, je n'aime pas beaucoup le mot, mais pour aller vite, disons intégration, est en panne, ça n'est pas de la faute de l'islam. C'est de la faute d'une société dans laquelle l'ascenseur social, en général, est en panne. Si on parle des ghettos, de ces cités, de ces quartiers, n'oublions pas qu'il y en a 500 en France, quartiers et cités de ce type, abandonnés. Ils sont abandonnés par l'État, ils sont abandonnés par les services publics. Ils sont aussi souvent, malheureusement, abandonnés par les forces politiques traditionnelles, par les syndicats. Et le mouvement altermondialiste n'a commencé que récemment et timidement à y mettre les pieds, à essayer d'y trouver des alliés, de construire quelque chose de neuf. Le Forum social européen, de ce point de vue, a marqué une avancée. C'est d'ailleurs peut-être la raison de toute cette grande polémique autour de Tariq Ramadan. Elle avait à voir, à mon avis, avec le Forum social européen et la capacité d'alliance entre le mouvement intermondialiste et les jeunes des cités.
Serge Lémy veut dire quelque
chose. Juste encore un mot, je finis. Quatrième idée. Je crois que on doit discuter clairement de la question de savoir si l'islam est un obstacle ou un atout à la bataille pour l'égalité des droits. Moi, je ne suis pas angélique, comme on dit, c'est la mode. Bien sûr qu'il y a des musulmans intégristes, fanatisés, qui essayent de profiter, d'exploiter, y compris la question de la loi, pour des objectifs qui ne sont absolument pas les nôtres. Mais ceci étant dit, on ne peut pas non plus amalgamer ces quelques groupes et l'ensemble des musulmans français. Après tout, c'est la seconde religion en France. C'est 4 à 5 millions de croyants ou de gens qui s'y réfèrent, en tout cas. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'on doit considérer l'islam à partir du moment où il s'adapte à la société moderne, non pas comme un obstacle, mais comme un atout, comme une forme d'identité qui permet aux jeunes de mieux s'intégrer dans la société. C'est vrai que c'est pas facile. L'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, ce sont des religions nées il y a très longtemps, qui par beaucoup d'aspects sont archaïques. Il faut qu'elles se réforment. Mais elles ne se réformeront pas sous le doigt pointé accusateur de tous les médias, de toute la classe politique. Il faut que le mouvement vienne des musulmans eux-mêmes, qu'ils arrivent à adapter leur propre religion, comme les juifs l'ont fait et le font, comme les catholiques l'ont fait et le font, à la réalité de la société française. C'est dans la sérénité qu'on peut expliquer et attendre, espérer une avancée de ce point de vue, certainement pas dans une situation de quasi-guerre civile où les gens se sentiraient stigmatisés, mis en cause, mis en demeure de s'expliquer en permanence sur leur identité même.
Nous sommes des messagers, nous parsemons la paix.
Serge Lémy.
Oui, je pense que ce que vient de dire Dominique nous renvoie un peu à ce qui s'est passé ailleurs et notamment aux États-Unis avec cette tendance permanente de racialiser les questions sociales. On parle de problèmes des banlieues et quand on parle des problèmes des banlieues, on pense au beurre, alors que le problème des banlieues, c'est la pauvreté des quartiers pauvres. Et je crois que l'un des dangers et l'un des pièges dans lequel la gauche et certains intellectuels progressistes tombent trop souvent, c'est de parler d'identité et de culture là où on devrait parler, où on pourrait parler de classe. Et la droite américaine, mais aussi européenne, n'a cessé de présenter comme des problèmes d'identité ou de culture, d'assimilation, des phénomènes qui découlaient d'inégalités sociales. Et naturellement, en présentant les choses de cette manière, elle arrivait à obtenir le consentement, l'appui d'une partie des couches populaires qui n'étaient ni immigrés, ni particulièrement intéressés par les problématiques religieuses, et qui ainsi, en quelque sorte, basculaient dans le camp de la réaction. Et je crois qu'il y a tout un travail pour la gauche et pour les intellectuels qui consiste à rendre leur réalité sociale à des questions qui sont d'abord des questions sociales.
Martine Bullard.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Serge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre identité, religion, situation sociale, quoi. Chacun a son autonomie, il ne faut pas l'oublier, parce que dans les classes sociales, quelquefois, on a oublié l'identité culturelle, et je crois que, bien sûr, il y a besoin de se réapproprier ça, mais il ne faut pas le confondre complètement. Et on voit bien que dans les quartiers, quand il n'y a pas la protection de l'État, quand il n'y a pas la protection des services publics, il y a la protection obligatoire d'une communauté. Et c'est ça qui fait que ça se développe. Il y a, j'ai oublié le nom d'un écrivain d'origine immigrée qui dit « il y a un lumpen islam dans les banlieues ». Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que il y a une utilisation par une partie des religieux islamistes intégristes, qu'il ne faut pas confondre avec l'ensemble de la religion, mais il y a une exploitation des difficultés de vie par ces gens-là, et l'exploitation par une partie de la droite. C'est-à-dire que M. Sarkozy n'a pas d'inconvénient à voir ces clivages se forger à l'américaine un petit peu, hein, tout en étant... Parce que précisément, on peut avoir... Ça perpétue un système où la communauté, voire la communauté religieuse, dans tous les sens du terme, et culturelle, protège la société... des révoltes possibles, des changements possibles. Et du coup, on se retrouve avec un peu un système qu'on a vu se profiler aux États-Unis, avec des banlieues dans lesquelles on a la communauté, entre guillemets. D'ailleurs, on parle maintenant de communauté. On a vu le glissement. On a parlé jeunes d'origine immigrée, puis jeunes arabes, puis musulmans, puis islamistes. Et on embarque tout ça dans un seul et même corpus idéologique qui permet précisément de maintenir le système en l'état. Et moi, je crois que ça, c'est effectivement extrêmement dangereux.
Nous sommes des messagers.
Maurice Lemoine.
Il y a deux, trois choses, je crois, qui n'ont pas été dites jusqu'à présent qu'il faut ajouter. Moi, je ne crois pas du tout que ce débat est un débat contre l'islam. Ce qui est en jeu, c'est pas le voile, ça n'est pas l'islam, ce n'est pas le respect de la différence culturelle, de la différence religieuse, c'est la préservation de l'espace public, et c'est de savoir si nous voulons ou ne voulons pas un espace laïque, en particulier dans les services publics. Alors c'est vrai que j'ai entendu que vont devenir ces jeunes filles qu'on va exclure. Alors je crois d'abord qu'on part d'un postulat qui me paraît faux, c'est que si on va partir d'une base 100 jeunes filles qui voudraient porter le voile, à la rentrée prochaine, il n'y a pas 100 jeunes filles qui vont être exclues. Parce qu'il me paraît d'abord que le dialogue doit prévaloir, et que la loi n'est faite en réalité que pour être là en dernier recours. Mais je voudrais surtout qu'on pose la question de savoir c'est que vont devenir ou que deviennent les jeunes filles qui subissent des pressions pour porter le voile, parce que ça me paraît être le problème fondamental. On a souvent des banlieues ou des quartiers sensibles ou des quartiers difficiles, une vision assez théorique, et on ne sait pas toujours ce qui se passe réellement. On connaît le terreau, cet intervalle de marginalisation, d'exclusion de toute une population d'origine immigrée, de jeunes parfois en déshérence, qui évidemment facilitent l'arrivée de courants islamistes intégristes. Et là encore, il s'agit pas d'amalgamer l'islam intégriste et l'islam tel qu'il est vécu par la grande majorité des musulmans en France. Mais c'est aussi dans ce contexte, des petits caïds de banlieue, les mêmes qu'on entend crier des slogans antisémites, les mêmes qui brûlent les voitures, on connaît bien tout ça, et les mêmes qui exercent des violences sur les femmes. Bon. Or, et on voit bien à travers le débat qui traverse les féministes la difficulté de régler la question.
C'est en interdisant le voile à l'école qu'on va
Alors, le voir.
Régler cette question.
On peut régler la question des pressions. Je veux dire, on semble oublier qu'il y a eu une commission qui s'appelle la commission Stasi, qui a révélé un certain nombre de choses que ceux qui connaissent la banlieue n'ont pas, pour lesquels ceux qui connaissent la banlieue n'ont pas été réellement surpris. Il y a effectivement, en ce moment, pour des raisons diverses que chacun pourrait expliquer ici, des pressions. Des pressions à la fois sur les jeunes filles, les jeunes femmes, et des pressions sur les familles. Et dans ce sens, l'école constitue un verrou. L'école constitue un verrou. Il est bien évident que si vous avez une pression et que vous pouvez dire, écoutez, c'est bien gentil, mais à l'école, c'est pas permis. Dans 80% des cas, je prends une estimation qui est bidon, il faudrait la faire plus sérieusement. Les gens vont dire, eh bien, écoutez, non, il n'est pas question d'obéir à cette pression. Par ailleurs, se pose un autre problème dans la préservation de cet espace public laïque, c'est que, avec tout le respect qu'on peut avoir pour toute religion, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, elle comporte quand même des points qui sont rétrogrades. Je crois qu'on a beaucoup oublié, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes en France, dans les années 70, que si les laïcs, qu'on traite aujourd'hui de laïcs intégristes, n'avaient pas fait reculer l'Église. Je veux dire, des droits comme le divorce, des droits comme le droit à disposer de son corps, l'avortement. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, dans des pays comme le Chili, les femmes sont en train de se battre, les hommes aussi d'ailleurs, pour pouvoir divorcer. Que dans un pays comme le Portugal, qui est très très marqué par l'Église catholique, on n'a pas encore le droit à l'avortement. Donc que le débat va bien au-delà, simplement, de ce qui peut apparaître, et ce qui apparaîtra d'ailleurs, c'est vrai, une partie de la population des jeunes, comme une mesure d'exclusion, mais qui n'en est pas une. Il y a un gros travail d'explication à faire. Je crois qu'effectivement, il faut bien différencier à la fois ce qui est l'islam intégriste ou l'islam dur et l'islam, qui doit être respecté et défendu. Je crois aussi qu'il ne faut pas amalgamer les laïcs avec les islamophobes, parce que la tentation existe parfois de l'autre côté. Et puis, le modèle laïque français, avec ses défauts, comporte aussi beaucoup de qualités. On cite parfois, lorsqu'on cite des pays étrangers, le modèle, alors on nous dit en Grande-Bretagne, ça se passe pas comme ça, ou aux Pays-Bas, c'est vrai. Mais quand on regarde des chiffres, et des chiffres qu'on ne cite pas toujours, c'est que, par exemple, les mariages mixtes sont beaucoup plus importants en France que dans ces pays, et que moi, ça me paraît beaucoup plus satisfaisant. Je suis beaucoup plus heureux de voir ces jeunes s'intégrer de cette manière-là.
Dominique Vidal.
Oui, je voudrais revenir sur une chose qu'a dite Serge, qui me paraît très importante, sur le caractère de classe de la question posée. Et cette question-là, elle est également à prendre en compte dans la manière dont on réfléchit aux solutions à la situation actuelle. On a parlé souvent de discrimination positive. Bon, déjà, l'idée qu'on puisse exiger une discrimination, du point de vue de quelqu'un qui est progressiste, c'est un terme qui mériterait discussion. Mais plus profondément, est-ce que la réponse à cette situation d'exclusion, de discrimination, elle est une réponse de caractère, entre guillemets, ethnique, ou est-ce qu'elle est une réponse de caractère social et démocratique? Et je crois que là, on voit bien la différence entre les deux démarches. Qu'est-ce que disent des gens comme le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et d'autres? Ils disent, au fond, laissez venir à moi les petits beurs intégrés dans une certaine bourgeoisie, et ceux-là, ils feront carrière. Alors on promet des postes de telle ou telle fonction musulman, telle ou telle autre fonction musulman, etc. Comme si, d'ailleurs, la promotion de quelques individus allait régler le problème de l'impasse sociale dans laquelle se trouvent des centaines de milliers. Mais déjà là, on est dans l'absurdité.
Et puis, est-ce qu'on a une carte de musulmans? Ça se définit comment?
Bien sûr.
Il va falloir faire des listes.
On fige une réalité
confessionnelle. On fait des listes de musulmans, on fait des listes de juifs.
Exemple en Allemagne, c'est évoqué dans l'article que j'ai fait, où on a un impôt sur les églises qui est prélevé non pas par les églises, mais par l'État. Et donc l'État s'adresse aux citoyens en leur disant « Vous êtes catholique, il faut payer pour l'Église catholique. » Et comment il le sait? Il le sait parce que c'est inscrit. Et si on veut se désinscrire, c'est un véritable parcours du combattant. On referme juste cette parenthèse, mais vous avez tout à fait raison de l'avoir ouverte. À partir de là, la vraie question, elle est, et je crois que l'expression américaine d'affirmative action, si on pouvait lui trouver une traduction meilleure que celle qu'on a d'habitude, elle est beaucoup plus intéressante, mais à la française, c'est-à-dire permettre un coup de pouce donné, non pas à telle ou telle minorité, mais à l'ensemble des jeunes de catégories défavorisées,
pour qu'ils puissent
accéder. Dominique, si je suis là en train de vous écouter, de vous poser des questions, c'est que j'ai eu des bourses quand j'étais gosse. J'ai fui d'un milieu ouvrier, pauvre, enfin modeste. Et on avait des bourses pour faire des études.
Mais nous,
c'est ça dont vous êtes en train d'inventer les bourses.
Je les invente parce qu'il faut visiblement les réinventer. Parce que quand moi j'étais étudiant, il y avait très peu de fils d'ouvriers ou de paysans à l'université, et dans les grandes écoles, je n'en dis rien. Ensuite, cette proportion s'est élevée dans les années 70 et 80, et aujourd'hui, elle est retombée à un niveau égal, voire inférieur, à ce qu'elle était dans les années 60 ou 70. Donc il faut réinventer, oui Daniel Mermet, vous avez raison, il faut réinventer les bourses, il faut réinventer un système qui permette à des jeunes méritants, comme on dit, de catégories défavorisées, d'avoir accès à un enseignement digne de leur capacité. Je ne fais pas l'apologie du système inventé par Sciences Po, on sait très bien qu'il a énormément de défauts. Mais il n'empêche que le fait de poser la question en termes de ZEP, et non pas en termes de minorité immigrée de telle ou telle catégorie, et cela permet d'imaginer une poussée démocratique et un accès plus démocratique de toute une série de jeunes à ces enseignements. Le problème n'est pas le détail technique. Le problème, il est de donner une réponse démocratique, sociale, et non pas une réponse ethnique à la question posée.
Serge Halimi.
Je pense que pour s'éloigner des faux débats fabriqués par les médias, très souvent, lorsqu'on parle de discrimination positive, il faut rappeler qu'une la discrimination positive, elle existe en France et partout à l'étranger. La discrimination positive qui existe, c'est la loi de la reproduction sociale. Lorsque vous êtes à Sciences Po, la discrimination positive, elle tient au fait que vous y êtes souvent parce que vos parents sont cadres supérieurs ou industriels. Lorsque vous êtes étudiant à Harvard, puisque l'étude a été faite, vous avez 4 fois plus de chances de l'être lorsque vos parents ont eux-mêmes été étudiants à Harvard et ont eux-mêmes versé de l'argent à l'université lorsqu'ils étaient sollicités pour le faire. Cette discrimination positive-là, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais et on donne comme ça aux gens le sentiment que la question de la discrimination positive, c'est de favoriser des femmes ou des minorités nationales et raciales, ce qui permet de monter une partie de la population contre ces gens-là en disant « ils ont eu accès à un privilège qui m'a été interdit à moi parce que je n'étais ni femme ni minorité raciale ». Donc encore une fois, il faut rappeler toujours que la discrimination positive existe, qu'elle structure toutes les sociétés occidentales et bien d'autres, et qu'elle s'appelle la loi de la reproduction sociale.
Martine, là.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Serge. Et du point de vue de la... D'autre côté, si je puis dire, ça permet de se dire, on fait Sciences Po. Moi, je trouve ça plutôt... L'avantage de poser la question de Sciences Po, c'est d'avoir dit, il n'y a que 2% de fils et filles d'ouvriers qui sont à Sciences Po, et c'est un scandale, puisque ce sont les futures élites. Et ça, c'est très bien. Mais en même temps, la solution proposée aboutit à ce qu'on peut délaisser. On délaisse complètement les lycées, les collèges des banlieues défavorisées. On sort 2-3 élèves, on fait un petit machin, on sort de... C'est la même chose que la constitution d'une bourgeoisie dont on parlait tout à l'heure. On sort 2-3 élèves, on dit on fait. D'ailleurs, on a plusieurs étudiants qui ont témoigné que leur statut est un peu compliqué sur place, hein, que maintenant on commence à demander quand on sort de Sciences Po, mais dites donc, vous êtes entré à Sciences Po comment ? Il y a ceux qui sont entrés avec un concours comme tout le monde et ceux qui font partie qui sont sur les listes. Donc, je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je dis, voilà les inconvénients que ça donne. Et pendant ce temps-là, on masque le fait qu'on ne donne pas d'argent à l'école. On est en train, écoutez, on vient de supprimer 3000 postes d'enseignants et on propose qu'il y ait dans les lycées un policier pour faire la loi. Et je trouve que c'est un symbole tout à fait fort de ce qui est en train de se passer.
La suite dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Merci à tous. Ignacio Rambalet, Dominique Vidal, Serge Halimi, Martine Bullard, Maurice Lemoine. Technique aujourd'hui, Patrick Henry, Alison Ascrisi. Répondeur, Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Musique, Koy Nguyen. Et c'est Antoine Chao, oui, qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve demain à 17h pour la basse, si j'y suis. Salut !